L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « Le veau d'or ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton appel, pour entendre ton cri, Seigneur, car les temps sont proches de la fin. Car nous sommes arrivés au temps de la fin, Seigneur, et tu nous parles, tu veux sauver encore, tu veux guérir, tu veux délivrer. Tu veux faire du bien à un homme, tu veux faire du bien à une femme, encore une fois aujourd'hui. Et je crois que par la foi, tu as répondu à cette prière. Bénis les différents auditeurs, au nom de ton Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Le veau d'or. Aujourd'hui, nous allons lire un texte assez long, dans Exode 32, à partir du verset 15. C'est assez long, mais c'est vraiment très 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 important. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poussière. Répandit cette poussière à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi tous ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les Lévites, les enfants de Lévite firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Cette histoire est une des histoires les plus tristes que je connaisse de la Bible. Mais pourtant, ça nous enseigne sur beaucoup de choses. L'histoire du veau d'or commence au verset 1 jusqu'au verset 6. Moïse est parti à la montagne depuis 40 jours, 40 nuits, et il n'a pas donné de ses nouvelles. Alors, Israël s'est refroidi dans son amour et dans sa marche pour Dieu. Ils ont proposé à l'homme de Dieu, Aaron, fais-nous un Dieu, parce que Moïse, il est perdu, Moïse est parti, Moïse est mort, fais-nous un Dieu. Et quand ce veau d'or a été fait, Israël a proclamé, voici le Dieu qui nous a fait sortir de la servitude de l'Égypte. Dieu parle à Moïse pour lui dire, écoute, ton peuple que tu as sorti s'est perverti. Moïse va intercéder, Moïse va supplier Dieu de ne pas punir Israël. Dieu va écouter sa prière. Gloire à Dieu. Mais lorsque Moïse descend maintenant, Moïse va exercer le jugement. Nous avons commencé à dire que Jésus va revenir bientôt. Nous avons dit aussi que Moïse est une préfiguration de la personne de Christ. Nous avons aussi dit, cette histoire du veau d'or, c'est une image de ce que nous sommes en train de vivre dans les temps de la fin. Paul dit, dans 1 Corinthiens 10, au verset 6 et verset 11, que tout ce qui a été écrit, l'a été écrit dans notre intérêt, pour notre instruction, afin que nous ne produisions pas les mêmes erreurs. Or, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs. Des hommes de Dieu qui nous encouragent dans les bêtises spirituelles, des hommes de Dieu qui ont peur de la population au lieu de craindre Dieu, une population, un peuple, des nations qui abandonnent le Dieu vivant pour suivre des idoles. Je suis même en train de penser à un verset dans Apocalypse qui dit que lorsque Dieu va frapper le monde de fléau, les hommes vont refuser d'abandonner leur idolâtrie. Ils vont persévérer dans leur prière envers les statues, comme si ces statues pouvaient leur apporter des solutions. Jésus vient bientôt, mon frère. Jésus vient bientôt, ma sœur. Et l'image que nous sommes en train de voir du retour de Jésus, c'est dans cette histoire de Exode 32. Quand vous lisez l'histoire de Exode 32, verset 1 et verset 2, et quand vous lisez l'histoire du départ de Jésus dans acte 1er, quand les anges sont en train de parler aux premiers disciples de Jésus pour leur dire, mais pourquoi vous êtes restés comme ça à regarder Jésus? Il va revenir, écoutez, il va dire ceci. Verset 9, acte 1. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, « Hommes galéens, pourquoi vous êtes-vous arrêtés à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Voyez, Jésus est parti, Jésus va revenir. Aujourd'hui, le monde est en train de dire, mais vous parlez du retour de Jésus, ça fait plus de 2000 ans. C'est vrai que ça fait plus de 2000 ans que nous le prêchons. Et nous allons continuer à le prêcher tant que Jésus ne sera pas revenu. Mais ceci ne veut pas dire que ce sont des faussetés. Ceci ne veut pas dire que ce sont des rêveries. Ce matin ou cet après-midi, je lisais un texte sur Internet, sur une certaine secte religieuse, qui prétendait que Jésus serait revenu en 1914 sous une forme spirituelle. Non, les anges sont en train de nous dire ici. La même manière que vous avez vu Jésus monter physiquement, c'est de la même manière que vous allez voir Jésus physiquement descendre. Et nous avons dit dans les missions précédentes que le retour de Jésus va se faire en deux phases. Phase 1, il va s'arrêter dans le ciel et l'Église va monter. Phase 2, Jésus va poser ses pieds sur le mont Olivier comme il était parti. Toutes les nations verront Jésus. Toutes les tribus, tous les présidents qui seront à cette époque-là vont voir Jésus de leurs propres yeux. Parce que son retour est aussi sûr que le lendemain ou aussi sûr que le lever du jour. Jésus vient bientôt. Mais lorsque Jésus va venir, lorsqu'il va venir une deuxième fois, il viendra pour exercer des jugements. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Jésus vient pour juger. Il va sauver son Église, il va prendre son Église. Et lorsqu'il va faire l'enlèvement de son Église, il va faire un jugement, mais pas un jugement de condamnation. Mais il y aura quand même un jugement. Parce qu'il va mettre, il va remettre les choses en ordre. Il y aura des demandes d'explication, si je puis dire. Il y aura des mises au point. Il y aura des éclaircissements. Il y aura des récompenses. Jésus vient pour exercer un jugement. Ne vous trompez pas, mon frère. Ne vous trompez pas, ma sœur. Nous l'avons lu dans Exode 32, lorsque Moïse est descendu, il a exercé un jugement. 3000 personnes sont mortes à cause de leur rébellion, à cause de leur manque de persévérance dans la marche chrétienne. Aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose encore. Des hommes et des femmes qui commencent avec Jésus-Christ. Les semaines passent, les mois passent, les années passent, et commencent à se refroidir dans leur marche chrétienne. Leur amour n'est plus aussi fort qu'au départ. Pourquoi ? Ils se sont laissés distraire par les choses du monde. Ils se sont laissés distraire par des fausses doctrines. Ils se sont laissés distraire par les plaisirs du monde et leur amour pour Christ a refroidi. Ma prière est que ce message que vous êtes en train d'écouter sur le Vaudor réveille votre amour, réveille votre passion pour Christ. Vous savez, des hommes et des femmes qui attendent le retour de Jésus, qui soupirent après le retour de Jésus, en général ne restent pas inactifs dans l'évangélisation. Peut-être qu'ils ne vont pas participer, peut-être qu'ils ne vont pas prêcher, mais ils vont participer dans la prière, dans le financement, ils vont s'intéresser à gagner le maximum d'hommes et de femmes autour de soi. Ça peut être un voisin, un collègue de travail, ça peut être un ami, un collègue de l'université, ça peut être une voisine. Vous savez, tous, nous ne ferons pas des évangélisations de masse où 1 million de personnes sont réunies autour d'une surface et écoutent l'évangile. Non, tous, nous ne ferons pas ça. Mais peut-être qu'il y aura certaines personnes qui vont commencer à prêcher dans les radios, dans les télévisions, des traités bibliques, des simples témoignages. D'autres vont commencer à financer. Bref, ils ne vont jamais, jamais rester inactifs. Des simples membres d'église, ils viennent, ils s'assiedent. Non. Parce qu'ils sont tellement convaincus que si l'autre n'entend pas l'évangile et que Jésus revienne, cette personne-là va aller en enfer. C'est très important. Jésus vient pour juger. Dans Romains 14, verset 10, il est dit ceci. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que nous faisons devant un tribunal? C'est pour y être jugé. C'est pour comparaître, répondre, examiner. C'est ce que Moïse a fait lorsqu'il est descendu de la montagne. Il a vu, il a jugé et il a appliqué la sentence. Israël, tu as abandonné Dieu. Mon frère, ma sœur, Israël de Exode 32, peut-être vous. Ça peut être vous. À cause du travail, vous avez abandonné Dieu. À cause du mariage, vous avez abandonné Dieu. À cause de l'argent, vous avez abandonné Dieu. En général, ceux qui abandonnent Dieu, ils abandonnent toujours Dieu pour quelque chose. On n'abandonne pas Dieu pour le plaisir d'abandonner Dieu. Il y a toujours quelque chose. Soit on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus au Dieu de la Bible, on ne croit plus que Jésus est le sauveur des hommes. Soit c'est l'argent, le travail, le sexe, soit c'est les plaisirs de ce monde, c'est la gloire de ce monde pour lequel on a abandonné Dieu. On abandonne toujours Dieu pour quelque chose. Mais lorsque Jésus va venir et que vous allez comparaître devant lui, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui présenter comme argument pour dire, Seigneur, si je t'ai abandonné, c'est pour ça. Mais à quoi ça sert de gagner le monde entier si on doit perdre son âme? Essayez d'imaginer toutes les richesses du monde multipliées par 100, multipliées par 1000, multipliées par 10 000, multipliées par 100 000, par 1 million, par autant de chiffres que vous voulez. La Bible dit que votre âme vaut plus que cela. La preuve, c'est que Dieu est venu sur cette terre. Il a la forme humaine et il a accepté de mourir pour vous et la mort la plus honteuse qu'il soit, pour que le salut puisse vous parvenir aujourd'hui. Vous imaginez? Alors maintenant, vous allez dire à Dieu, Seigneur, je m'excuse parce que je t'ai abandonné pour quelques diamants, pour quelques billets de dollars, pour quelques cuivres, pour quelques satellites, pour quelques richesses de ce monde, pour quelques maisons. Vous imaginez? Et Dieu va vous dire, le prix que j'ai payé pour toi est incomparable à tout ce que j'ai créé. Un homme de Dieu a dit, Dieu a tout créé facilement, mais le salut lui a tout coûté. Ça lui a coûté son fils bien-aimé, pour vous donner la possibilité d'être sauvé. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Vous allez comparaître, je vais comparaître. Votre voisin va comparaître, le président de la République va comparaître, le premier ministre va comparaître, Le roi va comparaître, la reine va comparaître, les princes vont comparaître, les chefs d'état-major vont comparaître, les sergents vont comparaître, les policiers vont comparaître, les clochards vont comparaître, les estropiés vont comparaître, l'homme le plus pauvre, les serviteurs, les servantes, les gardes du corps, les militaires, des forces spéciales, des forces d'assaut, des simples soldats, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Les chanteurs, que ce soit des musiques mondaines, des musiques religieuses, des musiques chrétiennes, tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Et qu'est-ce que nous allons présenter pour notre défense? Oh, plaise à Dieu que vous qui écoutez en ce moment, vous prenez conscience que quand vous allez comparaître devant le tribunal de Dieu, que Jésus-Christ soit votre avocat. Il n'y a aucune religion qui va comparaître devant Dieu. Ah oui, nous n'irons pas devant Dieu avec la religion catholique, la religion protestante, la religion kimbanguiste, la religion témoin de Jéhovah, la religion mormon pour dire « Non, moi je suis mormon, tu dois me juger selon les normes mormones. Non, moi je suis témoin de Jéhovah, tu dois me juger selon la foi des témoins de Jéhovah. Non, moi je suis catholique, moi je suis protestant. » Non, il va vous juger selon ses normes. Jésus disait quelque part dans les évangiles, c'est la parole de Dieu qui va vous juger au dernier jour. La parole de Dieu. Ça ne sera pas la religion, les philosophies. Ça ne sera pas votre père, ça ne sera pas votre mère, votre grand-père qui va vous juger. Non, ça sera la parole de Dieu. On va vous présenter la parole de Dieu. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oh non. Ok. Maintenant, jugeons vos œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai construit des châteaux, j'ai construit des églises, j'ai construit... Ok, prenez toutes ces choses, allez, c'est bon, allez en enfer, parce que les hommes ne seront jamais sauvés par les œuvres. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'ils auront faites, jamais un homme ne sera sauvé par les œuvres. Mais les hommes sont sauvés par la foi qu'ils ont mis en Jésus-Christ, et cela est gratuit. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 10, 2 Corinthiens 5, verset 10, il nous est dit ceci. Il nous faut tous, pas une partie, hein, pas les Africains et non les Européens. Il nous est dit, verset 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est vrai que ce verset s'applique aux chrétiens, ceux qui seront enlevés le jour de l'avènement de Christ. C'est vrai. Mais ce que j'essaie de ressortir, c'est que même chrétiens, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ pour des mises au point, pour des récompenses. C'est un jugement. Vous savez, un jugement peut être positif ou négatif. Un jugement peut tomber, soit vous êtes condamné, soit vous êtes absous. Le jugement de Christ sera pas pour la condamnation, mais pour donner des récompenses. Il y aura des gens qui vont poser des questions à Christ. C'est comme ça que moi j'imagine. Christ va éclaircir certaines situations. Pour tout le bien qu'ils auront fait dans leur corps, ils auront des récompenses. Et Christ va leur reprocher ce qu'ils auront fait de mal dans leur corps. Nous allons tous comparaître, mon frère. Nous allons tous comparaître, ma sœur. Si vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Alors maximisons la possibilité d'avoir des grandes récompenses devant Christ. La Bible est pleine d'exemples des choses que nous devons faire pour recevoir, au moment où nous tiendrons devant le tribunal de Christ, déjà sauvés, pour recevoir nos récompenses. Mais nous devons comparaître. Mon frère, ma sœur, vous savez quand Moïse descend de la montagne, lorsqu'il exerce le jugement de Dieu, il exerce le jugement de Dieu sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas sur des nations païennes. Beaucoup pensent que non, parce que je suis chrétien, entre guillemets, donc j'irai forcément au ciel. Non, les prétendus chrétiens, les faux chrétiens, si je puis dire comme ça, les faux enfants de Dieu, seront séparés de Dieu, seront séparés du peuple de Dieu. Attention, 1 Pierre 4, verset 17, il nous est dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez, verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Lorsque l'enlèvement de l'Église est fait, c'est déjà un jugement. Parce que ceux qui vont rester, qui se disaient chrétiens, seront étonnés, seront choqués, seront éblouis, ils vont se dire, ah, mais je pensais que c'était des rêveries, je pensais que c'était des bêtises, je pensais que c'était des fables que me racontaient mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon pasteur, je pensais que c'était des rêveries. C'est déjà une forme de jugement. Parce que Dieu leur montre que vous n'appartenez pas. Vous dites que vous étiez de moi. Mais maintenant, moi, je vous montre aux yeux de tout le monde que vous ne m'apparteniez pas, que vous n'étiez pas de la bergerie de Christ. C'est très important, mon frère, de connaître ces choses. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît son peuple. Jésus dira dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, qu'il connaît ses brebis. Je peux mentir au monde entier. Oh, moi je sers Dieu. Dieu connaît qui je suis dans le secret. Qui je suis dans le secret. Ceci me fait penser un peu à Ézéchiel. Dieu montre à Ézéchiel les abominations, les choses secrètes que faisaient les sacrificateurs et les autorités d'Israël de son époque en secret. Il leur montrait des statues, des idolâtries, des images horribles. Mais en plein jour, ils se faisaient passer pour étant des saints, entre guillemets, des serviteurs de Dieu. Mais dans le secret, c'était des serviteurs du diable. Dieu connaît l'état de votre cœur. Dieu connaît l'état de votre cœur et vous ne pouvez pas lui mentir. Quand vous allez dans l'adultère, lui, il sait, même si personne ne connaît. Quand vous êtes en train de voler, personne ne connaît que vous êtes en train de voler, lui, il voit. Quand vous vivez dans le péché, Dieu voit. Parce qu'on ne peut pas le tromper. On peut tromper un homme, on peut tromper son pasteur, on peut tromper le président de la République, le roi, les princes, les chefs d'état-major, mais on ne peut pas tromper Dieu. Jésus a dit, je connais mes brebis. Ça veut dire que vous pouvez être dans la bergerie de Christ, mais vous ne lui appartenez pas. Vous imaginez? Donc quand il va vous déceler, il va vous faire sortir. Regarde, toi tu n'es pas de chez moi, sors. C'est cela le premier jugement, si je peux parler du premier jugement. Lorsque l'Église va être enlevée, Christ ne va prendre que ceux qui lui appartiennent. Et lorsqu'ils seront dans sa présence, Christ va exercer maintenant un autre jugement, celui des récompenses envers ses serviteurs. Envers ses serviteurs. Le jugement va commencer dans sa maison. Il va d'abord purifier sa maison. Ceux qui se disent de lui et qui ne marchent pas avec lui, il va les mettre dehors. Attention, mon frère. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de réveil que Christ vous annonce aujourd'hui. Je ne suis qu'un instrument. Et moi-même, vous savez, quand je suis en train de vous parler, ce message me concerne aussi. Ce n'est pas parce que je parle de Jésus, que je prêche Jésus, que ça fait de moi le serviteur de Christ. Non. Ça m'interpelle. Raphaël, tu dois examiner ta vie de chaque jour. Pas d'hypocrisie, pas de tolérance du péché. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Dis non au péché. Ne t'endors pas. Parce que quand il va juger sa maison, il va séparer ce qui est saint de ce qui est vil. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Un autre type de jugement. Vous n'êtes pas inscrit dans le livre de vie. Vous êtes inscrit dans le livre des morts. Vous êtes inscrit dans le livre qui doit aller dans l'étang de feu. Qui va vous sortir de là? Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de vous repentir de vos œuvres des ténèbres. C'est Christ qui est en train de vous parler. Ne regardez pas la personne que je suis. Je ne suis que Raphaël, un simple instrument à qui Dieu a fait grâce d'être sauvé, à qui Dieu fait grâce de servir, à qui Dieu fait grâce de le servir, à qui Dieu fait grâce d'annoncer la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est une grâce d'écouter l'Évangile aujourd'hui. C'est une grâce de lui donner sa vie aujourd'hui. Saisissez cette grâce. Demain, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Les morts, le séjour des morts, la mer, ont rendu les morts pour être jugés. Et on leur a dit, quand il ne fut pas trouvé digne dans le livre de vie, on les a mis dehors, dans les temps de feu. Le feu là-bas ne s'éteint pas. Ce ne sont pas des rêveries. L'enfer existe. Ce n'est pas parce que le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible que ça n'existe pas. Mais le principe de l'enfer existe. Un lieu de souffrance et de tourment éternel. Christ ne veut pas que vous alliez là-bas parce qu'il est mort pour vous. Mais c'est à vous de prendre cette décision. Si la décision que vous voulez prendre aujourd'hui est de servir Christ, baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton message. Je viens à toi humblement te demander pardon. Pardon pour ma rébellion, pardon pour mes mauvaises œuvres, pardon parce que je n'ai pas marché selon ta parole, mais j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton message et je viens à toi. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je crois que je suis devenu une nouvelle créature, un enfant de Dieu, un chrétien, et je prends l'engagement de suivre Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je suis Raphaël Mambou, le même thème. Pardon, nous nous retrouvons la fois prochaine sur un nouveau thème. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au +243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.